Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Nina, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce grand entretien avec Nina Bouraoui. Bonjour Nina.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre intitulée « Écrire la perte, dire la vie » à l'occasion d'une double publication chez Lattès, « Grand Seigneur », un récit personnel, très universel, mais aussi très personnel, d'une grande ampleur littéraire dans lequel vous accompagnez les derniers jours de votre père admis en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier en mai 2022. Vous racontez les mystères de cet homme hautement romanesque, ce que vous savez de lui et surtout la façon dont vous l'avez regardé, admiré depuis toute petite jusqu'à ces derniers jours et la façon dont il vous a construite. En parallèle de ce livre très très important pour vous, vous publiez aussi Le désir d'un roman sans fin, qui est assez complémentaire. C'est vraiment très intéressant de les lire en miroir. Il s'agit de chroniques sur le monde contemporain, parues dans la presse ou dans vos carnets ici et ailleurs entre 1999 et 2022. Et on est là aujourd'hui pour parler de votre rapport à l'écriture depuis l'enfance et de votre rapport au réel, qui est la thématique du festival Effraction, et qui sont deux questions absolument centrales dans votre œuvre et dans cette double actualité. Vous écrivez depuis l'enfance, avant même de savoir écrire, dites-vous dans Grand Seigneur. Vous avez publié votre premier livre, La Voyeuse Interdite, en 1991, qui a marqué un très grand nombre d'entre nous, je pense que je peux le dire, qui a reçu le prix du livre Inter. Vous avez publié 20 livres. Je vois que c'est le 19e et 20e livre que vous publiez aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire.
Merci.
C'est quand même un bel âge. Souvent écrit à la première personne, et dans lesquelles la vie et la fiction se mélangent, se nourrissent mutuellement, perpétuellement. La fiction nourrit l'autobiographie, je pense, comme l'autobiographie nourrit la fiction. Vous avez écrit des chroniques, on le disait, des chansons, et toujours portées par un feu, un élan vital, que vous traduisez par cette phrase que j'ai relevée dans Grand Seigneur. Écrire est un acte, le livre est le résultat d'une liaison, d'un désir, d'un rapport, il s'agit de sexualité. Je trouve cette phrase très éloquente pour
dans le recueil de textes, hein. Voilà. Pas dans Grand Seigneur. Oui,
ah, c'est dans Le désir d'un roman sans fin, pardon. C'est vrai que les deux, comme j'ai lu les deux en parallèle,
les deux sont un peu siamois, ce mélange, et tant mieux.
Absolument, on va parler des liens entre les deux. Je dis quelques mots pour présenter le cadre de cette rencontre. Je m'appelle Lorraine Malka, j'ai le plaisir d'animer le podcast Assez Parlé pour l'école Les Mots. C'est un podcast dans lequel je demande aux écrivains et écrivaines de se raconter et de raconter leur rapport à l'écriture, la façon dont cela a évolué dans leur vie depuis l'enfance. Et cette année, on a donc la chance pour la deuxième fois d'être invité à enregistrer ce podcast dans le cadre du festival Effraction avec vous, Nina Bouraoui. On va passer une heure ensemble. La majeure partie sera consacrée à l'interview qui donnera lieu aussi au podcast Assez Parlé. Mais si vous avez des questions, notez-les bien et on vous fera passer un micro dans les 15-20 dernières minutes de la rencontre. Nina Bouraoui, on le disait, ces deux livres sont si à moi. Et lire ces deux livres en parallèle permet d'avoir une perspective assez large sur la place de l'écriture dans votre vie. Donc, qui est toujours cet acte de désir, cet élan vital tendu vers l'autre, et plus particulièrement, je crois, vers votre père, qui a vraiment une place centrale dans l'écriture, semble-t-il. Est-ce que vous portez ce livre, Grand Seigneur, depuis toujours ?
J'espère pas, parce que ça voudrait dire que j'ai pensé à la mort de mon père depuis mon enfance. Et en fait, c'est exactement la réponse à... Ce livre est la réponse inverse à la mort. En fait, ni moi, ni mon père, ni ma famille n'avons, je crois, accepté, envisagé la mort de mon père. Moi, je me souviens quand j'étais très petite, j'allais le voir, je disais, mais c'est horrible, la mort, le néant, le vide. Il me disait, ah, mais t'es trop jeune, ce sera dans très, 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 très longtemps. Et ce très, 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 très longtemps est arrivé. Mais en revanche, je pense que tous les écrivains portent en eux l'idée qu'un jour ils vont écrire sur la mort de leurs proches. C'est vrai que moi, j'étais pas du tout en train de J'étais en train d'écrire un tout autre sujet, justement sur la féminité, sur les femmes. Et quand mon père est retombé malade, et quand je me suis aperçue que là, c'était encore plus grave que d'habitude, au début, j'ai cru à une sorte d'écriture vaudou qui allait raconter peut-être sa maladie et ça, tout d'un coup, un miracle et qu'il allait en sortir. J'étais sûre que l'écriture allait le guérir. Et puis, cette écriture s'est arrêtée. Et en fait, quand il est rentré en soins palliatifs, j'ai tout arrêté, notamment même mon journal intime, parce que dans l'écriture, vous l'avez très bien dit, il y a cette dimension du désir et de la sensualité, de la force, mais en fait, qui sont que des forces de vie. Et quand mon père est rentré à Jeanne Garnier, j'étais cernée que par des forces de mort. Mais si j'ai écrit ce livre, c'est pas un document, c'est pas un témoignage, c'est peut-être certainement comme... ça a peut-être un rapport, une correspondance avec le journal de d'Annie Ernaux au sujet de sa maman qui avait Alzheimer, qu'elle allait voir, qui s'appelle « Je ne suis pas sortie de ma nuit » ou « Je ne suis pas encore sortie de ma nuit », peut-être que j'écorche le titre, pardon, où elle dit justement « Ce n'est pas la narration d'un soin palliatif ou de la clinique ou des... » Pas du tout, c'est le résidu d'une douleur. Et je crois que c'est vraiment ça. Grand Seigneur, j'étais prise dans le tourbillon étrange que la mort nous impose, en fait. La mort va bouleverser une temporalité, celle du mourant, celle de ceux qui l'accompagnent, et puis ceux qui nous entourent aussi, même l'intemporalité de la ville de Paris. C'est-à-dire que quand je sortais de ce lieu où j'ai passé tant d'heures, parfois 8 heures ou 9 heures, Paris semblait se refermer sur moi. Il fallait que je marche beaucoup. Jeanne Garnier se trouve avenue Émile Zola dans le 15e, je vis dans le 3e, donc je faisais tout ça à pied. Et tout d'un coup, toute ma jeunesse est revenue pendant ces longues marches. Et j'avais deux piliers, qui étaient l'amitié et l'amour. Mais même l'amitié et l'amour étaient non pas remises en question, mais tout d'un coup, tout était bizarre. Et la réponse à cela, à cette étrangeté, à cette bizarrerie, c'était d'écrire pour rendre réelle cette agonie et raconter aussi, j'ai peut-être eu rendez-vous avec la mort, mais j'ai eu surtout... rendez-vous avec la vie, parce qu'il s'est produit au sein de cette maison des choses assez merveilleuses.
On va en parler. Vous dites plusieurs fois dans Grand Seigneur que accompagner les derniers jours d'un père, c'est la plus grande aventure qu'on puisse vivre. Alors ça paraît assez étrange comme formulation au départ. Et vous dites aussi que c'est une expérience qu'on ne peut comprendre ou ressentir qu'en l'ayant vécu. On ne peut pas vraiment l'anticiper. Et pourtant, vous l'avez imaginé plusieurs fois pendant que votre père était vivant. Vous avez imaginé sa mort plusieurs fois. Et c'est vrai quand on lit votre livre, on a l'impression de... toutes et tous, même sans l'avoir encore vécu, se préparer à ce moment-là d'une vie qui est un moment évidemment essentiel, très important et qu'on redoute. Est-ce que c'est pour ça que je vous demandais si c'était pas le livre que vous portiez depuis toujours ?
Ou peut-être que je redoutais. Je crois que la mort des siens, la mort de ceux qu'on aime, parfois surgit comme une idée opportuniste. Mais la vie est toujours gagnante. On la chasse, on ne pourrait pas vivre tous les jours en pensant même à notre propre mort. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que d'accompagner un mourant, et en plus quand c'est son père, c'est une grande aventure, dans le sens où on ne sait pas où elle vous mène, on ne sait pas ce qu'elle va transformer en vous, on ne sait pas ce qu'elle va transformer aussi dans votre entourage, on ne sait pas ce qu'elle va transformer dans l'amour, dans le désir, on ne sait pas si on peut encore aimer après la mort, on ne sait pas si on a le droit de désirer pendant qu'on accompagne un mourant. Il y a quelque chose, la mort vous donne beaucoup de leçons de vie, je trouve. Alors il ne faut pas y répondre, il ne faut pas s'y soumettre, il faut être peut-être plus grand et encore plus vaillant qu'elle. Mais les mourants nous donnent, eux, une autre leçon, c'est celle du courage et de la dignité. Moi, j'ai vu mon père se battre jusqu'à la fin. C'est vrai que je le dis souvent, j'en ai fait que lui mentir, parce que mon père avait ce don de joie, ce don de vie dont j'ai hérité, certainement, qui est aussi un peu un don un peu de l'innocence et une façon un peu immature d'occuper le réel et une façon de le fuir aussi. Mais c'est vrai que je lui disais qu'il allait reprendre des forces et puis qu'il allait se lever et repartir chez lui. Mais je crois que je l'ai cru jusqu'à la fin. Parce qu'il arrive des miracles à Jeanne Garnier, ils sont très rares. Mais je me suis renseignée et je sais que parfois, on peut quitter des soins palliatifs et rentrer chez soi, c'est très très rare. Alors moi, je priais dans ce sens. Ce n'est pas arrivé, mais il est arrivé une multitude de choses étranges. Mon père avait un livre fétiche qui s'appelle « Les nourritures terrestres ». Et un jour, quand je me suis retrouvée seule avec lui, parce qu'il y avait ça aussi, une famille orientale, donc on était un peu agglutinés tous, ma sœur, ses enfants, ma mère autour de cet homme. Voilà, peut-être parfois, peut-être qu'on le dérangeait, je ne sais pas, mais on ne voulait jamais le laisser seul. Et un jour, par miracle, je me suis retrouvée seule avec lui et j'ai commencé à lui lire ce passage. Il y a un passage où il y a des oiseaux. Tous les oiseaux de Jeanne Garnier se sont mis à chanter. C'était très, très étrange, c'était très bizarre. Et mon père ne parlait plus. Mais quand ma mère est arrivée, j'ai cessé ma lecture, j'ai caché mon livre. Et il a dit, où est mon bouquin? Mais il disait jamais bouquin, mon père disait livre. Où est mon bouquin? Où est mon bouquin? Ma mère a dit, ah non, mais peut-être il s'agit de ton bonnet, parce que mon père a toujours froid à la tête. Et puis, il y a eu plein de petits détails comme ça, et surtout... C'était la tendresse, c'est-à-dire que lorsque je dis que j'ai rencontré la vie, il faut quand même honorer, même si ce n'est pas un roman, c'est un récit, ce n'est pas un témoignage, mais c'est aussi un hommage rendu à tous ces saints qui travaillent au sein de Jeanne Garnier, qui sont eux en permanence avec la mort et qui n'ont pas la distance, je trouve, alors ils ont une autre distance certainement, j'espère pour eux, mais qui peut exister dans un hôpital dit normal. C'est-à-dire que ce sont des gens très tendres, très à l'écoute, mais à l'écoute aussi... du malade, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Donc moi, c'est vrai que souvent, j'étais dans les bras d'inconnus, mais cette tendresse ne me choquait pas. Je la trouvais tout d'un coup, l'humanité avait sa place, parce que nous étions au cœur de la mort. Ce qui est d'ailleurs dommage que l'humanité ressurgisse uniquement dans la grande violence de la vie. Et je me suis beaucoup promenée dans cet endroit. Il y a une bibliothèque, il y a une chapelle. Il y avait une famille à côté de nous, eux aussi très nombreux, parce qu'ils étaient, eux, asiatiques. La famille de Georges, qui accompagnait sa petite sœur, assez malade, très malade. Et on a lié, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose d'étrange, puisque quand mon père est mort, sa sœur est morte quelques heures après. On s'est retrouvés, Georges, après, dans la rue, avenue Émile Zola, et c'était comme un passage, il n'y a eu que des passages. Alors, moi, je crois aux fantômes, même s'ils n'existent pas, je crois en autre chose, même si ça n'existe pas, parce que je trouve que c'est, certainement ça nous aide, mais aussi ça construit nos vies et ça dit le secret aussi des écrivains. Je crois que les écrivains ont peut-être cette faculté, pas de médium, pas de clairvoyance, mais en tous les cas, de raconter la vie... soit avec un temps d'avance, soit avec un temps de retard, mais en tous les cas de biais, par ricochet. D'écrire sur mon père, c'était pas écrire uniquement sur mon père, c'était écrire sur tous les pères. D'écrire sur la mort, c'était écrire sur toutes les morts. C'est-à-dire que ce récit, je le veux le plus universel qu'il soit. Je crois qu'il l'est, parce que je voyage beaucoup avec lui, et je rencontre beaucoup de fils, de filles et de pères. Qui me disent merci parce que ce sont les mots qu'on aurait voulu avoir et qui sont maintenant consignés dans un livre. Peut-être que ça sert à ça, la littérature aussi.
Vous le disiez, écrire, c'est donc avoir un temps d'avance ou un temps de retard, mais c'est aussi écrire sur le moment, pendant que la vie se déroule. Vous parliez des mensonges que vous faisiez à votre père dans cette et que vous faisiez à vous-même aussi dans cette chambre d'hôpital. Je vous cite, « Quand mon père me demande combien de temps il devra rester ici, je lui promets qu'il partira dès ses forces retrouvées. Je le trompe et je me trompe. Sa chambre devient la chambre de mon enfance, avec ses illusions, ses fantaisies. » Ce mensonge, est-ce que c'est déjà le premier pas vers la littérature, mais pendant que la vie se déroule?
Oui, moi j'ai grandi dans le secret. Le mensonge, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être mensonge par omission. C'est vrai que mon père a occupé ce qu'on appelle... il était haut fonctionnaire, il voyageait beaucoup. Quand il partait, il nommait ses voyages les missions. Il pouvait partir un mois, revenir 15 jours, repartir un mois... On ne connaissait pas toujours le nom de son hôtel. Il partait en Asie, il partait en Afrique. Il a beaucoup travaillé pour le FMI aussi, il représentait son pays là-bas. Et mon père écrivait beaucoup ses discours, les discours des autres. Et j'ai grandi certainement, avec ma mère en plus, qui adorait la littérature et qui était entourée de livres. J'ai grandi parce qu'aussi c'était Alger et qu'il fallait s'inventer un refuge, s'inventer un abri. C'était une ville qui était assez dangereuse, notamment pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une sorte de grande illusion, mais à double tranchant. Et je pense que c'est aussi la vie d'un écrivain. C'est-à-dire qu'un écrivain, il est totalement quand même assez en dehors de la société, dans son mode de vie, dans ses horaires, dans ses projets, dans sa façon même d'être. Je trouve que les écrivains sont des êtres étranges et parfois peu fréquentables parce que ce sont quand même des voleurs d'histoire. Et à la fois, ils sont totalement dans le monde parce qu'ils ont pour mission de le regarder, de le restituer, de l'exprimer, de l'expliquer non, parce que je trouve que c'est compliqué de donner une réponse et puis les écrivains ne sont pas des dieux, pas du tout. Mais en tous les cas, ils ont pour mission d'absorber les variations, les tremblements, les effrois et les beautés du monde. En tous les cas, moi, je conçois mon travail ainsi. Et c'est vrai qu'en fait, ce terreau, il a été celui de mon enfance. C'est vrai que dans cet appartement, sur les hauteurs d'Alger, avec cette baie d'Alger au loin, l'histoire de ma famille, mon père qui perd son frère aîné à la guerre, qui est comme, pas exfiltré, mais quand même, qui quitte l'Algérie en pleine guerre d'Algérie, qui arrive à Vannes, qui passe son bac, qui arrive à Rennes, qui rencontre ma mère, une Française, ma mère française qui est une des rares Françaises à faire le voyage de France en Algérie, alors que les Français quittent l'Algérie. Tout ça est terriblement romanesque et un peu étrange. Donc je crois que j'ai été élevée dans cette... En fait, on racontait déjà des histoires autour de moi. Mais tant mieux, c'était fascinant, mais le terreau était là. J'ai grandi... sur cette terre-là, mais cette terre aussi d'idées, de langage, de mots. C'est vrai que mon père, je le surprenais en train d'écrire la nuit. Je l'appelle dans le livre d'ailleurs le fakir qui écrit. Et pour l'imiter, j'ai voulu aussi écrire pour lui ressembler.
Et il semble que vous avez voulu aussi écrire un livre qui lui ressemble, qui soit, qui porte cette, on parlait d'élan de vie, de désir, et qui porte aussi cette joie en fait qu'il vous a transmis. C'est vraiment un don de la vie qu'il vous a transmis. Vous dites que votre sœur ne l'a pas reçu exactement de la même manière, mais que
de façon moins permanente, je pense. C'est-à-dire qu'il y a plus de variations du côté de ma mère et ma sœur, où je me trompe. Peut-être qu'elle ne serait pas d'accord, hein. Mais je pense que... Alors, est-ce que parce que j'ai capté sa virilité, est-ce que c'était peut-être une qualité virile ou peut-être un défaut, j'en sais rien, hein, de rire de tout et de plaisanter de tout, même lorsqu'on est dans une situation tragique. Mais en tous les cas, le rire, l'humour, ce don de joie est une grande politesse. Parce que lorsqu'on a traversé ce que l'on a traversé avec ma famille et... comme tant de familles, puisque c'est l'aventure la plus commune à tous les êtres humains, on sait combien cette vie est unique, merveilleuse, fragile, et que se plaindre d'être en vie, et parfois, ou se plaindre, c'est la plainte, c'est facile hein, de se plaindre tout le temps. Moi aussi, je me plains, je ne suis pas au-dessus de ça, mais j'ai quand même mal idée qu'il vaut mieux rire de tout, plutôt que de pleurer pour un rien. Je crois que c'est une chanson de Gainsbourg, d'ailleurs, ça.
Vous le disiez, vous êtes mise à écrire au départ pour lui ressembler, pour marcher dans ses pas, écrivez-vous. Et vous écrivez, l'écriture au début m'est apparue comme une pratique masculine, un lieu de force, de tension, de combat. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que c'est, on aimerait peut-être, je ne sais pas si vous pouvez le comprendre vous-même, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient assez souvent, cet aspect viril de l'écriture.
Mais c'est en plus vous avez raison, et en plus, c'est une réflexion terriblement misogyne. Mais vraiment. Et j'ai un peu honte. Alors, je ne le pense plus, mais je l'ai pensé longtemps. Parce que je crois qu'il y a chez moi, il y a eu une espèce de trouble de l'identité, mais qui n'était pas forcément, physique ou hormonal. C'est pas quelque chose qui m'échappait. Il y avait aussi quelque chose de construit. Parce que très tôt, moi, j'ai une très, très, très grande intuition. J'écoute mon intuition pour beaucoup de choses et pour l'instant, elle ne m'a pas souvent trahie ni trompée. Je pense que cette intuition, je l'avais déjà enfant. Et en Algérie, à Alger, dans les années 70, j'ai eu l'intuition que la force était du côté des hommes et pas des femmes. Alors, c'est facile de le dire quand on est adulte, mais quand on a 4 ans, peut-être ce n'est pas une évidence. Et très vite, je me suis travestie. Très vite, j'ai changé de prénom. Très vite, j'ai voulu m'habiller en garçon. Très vite, je voulais avoir les cheveux courts. Et très vite, je voulais avoir un métier qui ressemblait où s'y puisait la force des hommes. Et il se trouve que dans les années 70, il y avait des images masculines très fortes, Steve McQueen, Robert Redford, Dustin Hoffman, dans Les Hommes du Président, Le Vol du Condor, des hommes un peu étranges, soit journalistes, soit espions, soit agents secrets, mais finalement, des hommes qui ressemblaient beaucoup à mon père, qui portaient des trench, qui fumaient, qui avaient des lunettes fumées, qui étaient toujours pressés, toujours entre deux avions, toujours en train d'écrire. Et donc, je trouvais ça fascinant. Pour moi, je ne voyais pas d'image féminine ainsi. Pourtant, ma mère travaillait, mais ma mère lisait. Je trouvais que la lecture était une position plus soumise, plus douce, plus... je me disais, il faut être dans le texte, il faut créer le texte. C'est ça, la création, la force et le désir. Alors, je me trompais totalement parce que en assumant ma féminité très vite, dès adolescente, je me suis aperçue que déjà, il n'y avait ni virilité ni féminité à écrire. Enfin, en tous les cas, l'écriture, et on connaît la force de l'écriture des femmes, et de plus en plus, puisque les femmes écrivent, je trouve... enfin, elles ont toujours écrit, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus partie prenante. Mais il est long, le chemin. Moi, qui ai publié en 91... aujourd'hui, les femmes sont davantage lues et prises au sérieux. Parce que même dans les années, début des années 90, une femme qui écrivait, moi, on me lançait toujours « Ah, tu es jeune, tu as 24 ans, ou tu es jolie ». C'était ça. Il a fallu s'arracher ce truc de « Alors aujourd'hui, j'ai 56 ans, je deviens un peu plus respectable peut-être », mais il a fallu s'arracher ce truc de « jeune et jolie » et de l'arracher de son livre et de se dire « Non, j'ai une parole à dire et peut-être que ma parole compte et que cette parole, elle est aussi animée d'une mission, de défendre les plus fragiles, de défendre les invisibles, de raconter l'adolescence homosexuelle. » Ça a été de nombreux livres se sont penchés. Alors, ce n'était pas uniquement pour raconter mon adolescence qui a été souvent cruelle parce que je ne tombais pas amoureuse des bonnes personnes et surtout je sentais que ma différence... serait difficile pour moi pour trouver ma place dans la société. Et c'est là où l'écriture aussi est intervenue. L'écriture a été une façon de trouver cette place et aussi d'effacer mon homosexualité. Là aussi, c'est une posture très difficile et cruelle. Mais comme tous les jeunes homosexuels, j'ai traversé ces longues années du dégoût de soi, de la honte de soi, de sa propre homophobie. Parce qu'en fait... la société vous renvoie un regard tellement sale, tellement abject, et vous fait tellement bien comprendre que vous n'êtes pas normal, que vous n'êtes pas comme les autres. C'est très facile de l'apprendre, cette haine contre soi. Donc l'écriture a été une réparation. Même si je dis toujours, l'écriture ne sauve de rien. Pas dans les livres, enfin, pas dans l'acte d'écrire, mais peut-être dans les sujets. C'est-à-dire que de parler des adolescents ou prises avec cette différence et cette souffrance... et de les rencontrer après, dans les festivals, dans les librairies, de lire leurs courriers. Tout d'un coup, j'ai pu réparer par eux, de savoir que j'étais entrée dans l'obscurité de leur solitude. J'ai réparé ma propre souffrance avec la leur. Ouais.
Il y a quelque chose qui vraiment traverse, je crois, votre œuvre, c'est cette quête de soi et cette réinvention de soi. Vous en parlez par rapport au genre, mais en fait, ça, c'est aussi par rapport à l'exil, à l'identité. Si on revient vraiment à la petite enfance, puisque vous avez commencé peut-être cette quête de vous-même dès la toute petite enfance avec cette idée d'être une garçonne, d'être, je crois, prénommée comme un garçon, enfin élevée en tout cas comme un garçon par votre père. Est-ce que déjà le fait que vous ayez commencé à dessiner et à écrire très très tôt, c'était déjà cette quête de soi, ce besoin de vous isoler en vous-même pour vous réinventer ?
Peut-être. Je crois que je me sentais marginale, donc autant occuper cette marginalité avec la création. Et puis j'ai grandi dans les années 70, n'oublions pas. Alors c'est vrai que oui, mon père m'a élevée comme un garçon, mais il essayait avec ma sœur aussi. Ça a moins pris, ma sœur était plus féminine. Mais lui, c'était un féministe, un homme moderne, un musulman extrêmement modéré et poète, et qui aimait le vin, les femmes, la beauté, l'art, et qui priait à la fin de sa vie surtout, et souvent en secret, parce que pour lui, la religion ne se montrait pas, c'était une affaire personnelle, et elle ne devait être que source d'amour et jamais source de haine. J'aimais beaucoup ça chez mon père. Et c'est vrai que ces années 70 permettaient un peu tout, quand même. Mes parents, alors c'est vrai que quand mon père entrait de mission, il y avait une autorité comme ça assez, assez forte et parfois un peu brutale. Il y avait ce que je nomme un peu un amour en désordre, c'est-à-dire beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et tout d'un coup des colères folles où il pouvait faire très peur. Et ma mère, c'était la grande douceur, beaucoup de... Quand je dis du laxisme, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, nous étions très libres. Et la liberté a donné accès à la création. La liberté a donné accès à la possibilité, en effet, de dessiner, de peindre, de devenir un jour un écrivain. J'étais entourée de livres et surtout, l'Algérie m'a appris, m'a donné un œil esthétique à tout jamais. C'est-à-dire que cette Algérie de traversée de son désert, du Hoggar, du Tassili, de ses montagnes, de sa campagne, de toutes ces plages où l'humain n'a jamais rien désordonné. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention de l'humain ou très peu. Et en tous les cas, quand elles ont eu lieu, c'était du temps des Français. Je parle juste pour le tourisme et je pense à cet hôtel à Timimoun magnifique de Fernand Pouillon, où au centre d'une palmeraie, il avait construit un hôtel avec une piscine qui débordait, à débordement, ce qui est assez incroyable dans un désert. Mais ça a formé mon œil à la poésie, vraiment, à l'importance de la nature. Et aussi, ça m'a appris à comment, dans un récit, dans un roman, ou dans une chanson, ou dans un poème, ou dans des comptines, même pour enfants, quand même toujours, comment inviter la beauté de la nature, inviter... oui, c'est la beauté du ciel. J'ai eu, je pense, des chocs esthétiques très très forts à répétition en Algérie parce que cette beauté était partout, hors de la ville. J'aimais pas trop Alger, je trouvais que c'était une ville bruyante, pas très propre, je l'ai dit, parfois dangereuse, trop masculine pour moi, avec en plus des jeunes qui s'ennuyaient beaucoup, qui souffraient, je la sentais beaucoup cette souffrance. Mais dès qu'on quittait Alger, tout d'un coup, il y avait l'émerveillement de cette nature qui a fait de moi quelqu'un de très poreux aux forces et aux beautés de la nature, aux roches, à la mer, au vent. Et tout ça, j'essaye de le consigner à chaque fois, quoi qu'il arrive, peu importe le sujet. Mais la nature est toujours très présente dans mes livres.
Pour revenir sur votre enfance en Algérie, donc vous êtes arrivé en Algérie à 2 mois, vous y êtes resté jusqu'à vos 14 ans, et vous dites que votre père était absent, et en même temps il semble qu'il soit très présent finalement dans votre rapport à la création dès le début. Est-ce que c'était peut-être aussi pour lui plaire, pour dialoguer avec lui, que vous dessiniez, que vous écriviez?
Oui, peut-être, mais après, c'est aussi quand même l'œuvre et l'ouvrage de mes deux parents, pour qui quand même l'expression de soi était extrêmement importante, parce que peut-être eux avaient été muselés dans leur enfance, dans leur adolescence. Mon père est né en 35, ma mère est née en 39. Ce sont des enfants qui ont connu la guerre quand même, un peu la Seconde Guerre mondiale, et puis mon père, cette guerre est épouvantable des deux côtés, hein, la guerre d'Algérie, qui a duré longtemps, il a perdu beaucoup de cousins, il a perdu son frère, porté disparu en plus, on avait quelque chose de... Il a grandi quand même sur une terre de sang. Et je crois que non, mes deux parents nous donnaient accès à ça, et peut-être aussi, n'oublions pas qu'en Algérie, il y avait... alors, on a eu la télévision assez tard, mais en Algérie, il y avait une chaîne de télévision, la RTA, qui diffusait soit des programmes religieux. Donc, toute la journée, il y avait une espèce de page de Coran, puis on voyait une main qui tournait les pages. C'est très, très drôle. Et le soir, des longs discours politiques. C'était une Algérie, quand même, sous Boumédienne, après Chali, mais Boumédienne, fallait surtout pas parler du gouvernement. Donc, on vivait quand même très en vase clos. Alors, on avait la chance d'habiter dans une résidence avec un immense parc. Alors, le parc, on jouait beaucoup dans ce parc, on avait beaucoup d'amis. Mais quand même, tout se passait dans les appartements et les maisons. Il fallait beaucoup d'imagination. Il fallait vraiment pulser son imaginaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions. La seule distraction était la nature. Et moi, je me souviens avoir joué dans les ruines romaines de Tipaza, même d'avoir, honte à moi, volé un bout de ruine qui est vraiment... D'ailleurs, je ne sais même pas où elle est maintenant, dommage, parce que qui était vraiment une infraction, même un crime. Mais c'était ça mes jeux, c'était jouer avec l'histoire passée, dans les ruines, dans des vieux bains creusés dans la terre, les colonnes. Donc je m'ennuyais un peu quand même. C'était... Et donc je pense que le dessin et l'écriture ont été très vite, m'ont donné le sentiment tout d'un coup de casser les murs, m'ont donné le sentiment de force. Je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de grande liberté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, ah là, il y a quelque chose d'un coup qui m'excite beaucoup, même physiquement, qui fait mon corps trembler, où je me sens plutôt tout d'un coup très vivante et au-delà des quatre murs qui m'enferment et qui m'étouffent un peu. Et je crois que ce pays a créé beaucoup aussi, certainement, ce désir-là de s'exprimer. Parce qu'on s'exprimait beaucoup chez moi, parce que certes issu d'un couple mixte, mais d'un couple qui avait d'intellectuels, les années 70, où il y avait beaucoup de fêtes à la maison et beaucoup d'autres intellectuels qui venaient. Et on parlait beaucoup, je les écoutais, ces adultes qui parlaient beaucoup de politique, qui parlaient beaucoup aussi de montée de l'islamisme, et qui avaient peur, qui parlaient des guerres, qui parlaient de l'économie. Donc tout ça, je l'ai beaucoup absorbé. La parole était très libre, mais en dehors de ces murs-là, la parole était muselée. La parole était muselée en Algérie, il fallait faire assez attention. La liberté d'expression n'existait pas trop. Donc, de cette frustration est certainement née ma volonté d'être libre et de pouvoir tout écrire et tout dire. Et je crois aussi raconter celle que j'étais, moi, qui ai été si secrète pour ma famille pendant très longtemps. Je pense que mes livres ont livré... peut-être quelques informations sur mon compte que je n'osais pas dire plus jeune.
L'expression muselée, ça entraîne aussi votre père. Enfin, il y a quelques mystères. Par exemple, un jour, il vous dit qu'il doit déchirer tout ce qu'il écrit et que vous le comprenez sûrement puisque vous écrivez. Donc, il était attentif à votre création. Vous, au contraire, vous avez... tout archivé, je crois, puisque la preuve avec le désir d'un roman sans fin qui, je crois, va donner lieu peut-être à d'autres livres de cet ordre dans lesquels vous archivez les choses. Est-ce que pour écrire Grand Seigneur, vous êtes allé chercher dans des carnets anciens, des journaux intimes comment vous avez travaillé, à partir de quelles sources
En fait, Grand Seigneur... Alors, en fait, j'ai commencé vraiment à trouver sa voix 6 mois, voire 9 mois après la mort de mon père. Au début, j'ai essayé. C'était tellement compliqué pour moi et tellement douloureux de revivre. Et puis tout d'un coup, j'ai su et tout d'un coup, j'ai repris la main de mon père. Et c'est ça la magie de la littérature. C'est-à-dire que ce livre, quand je l'ai écrit, mon père était à nouveau là. J'étais à nouveau dans cette chambre 119. Je pouvais peut-être même dévier la trajectoire du destin, mais je me suis aidée aussi quand même avec mon journal intime que je tiens depuis quelques années, maintenant qui compte au moins 700 pages. J'attends qu'il ait plusieurs milliers de pages parce qu'on a quand même avec mon éditrice la volonté de le publier parce que c'est un journal littéraire, c'est pas un simple journal intime. C'est vraiment, là aussi, ce sont des archives d'écrivains, c'est un peu les coulisses de l'écriture, comment on écrit un livre, qu'est-ce qui se passe à la publication d'un livre, mais aussi comment est notre pays, la France, comment va mon pays, l'Algérie, comment va ma famille, comment va mon amour, comment vont mes amours, comment est l'état du monde. Et donc, c'est un journal que j'essaie de tenir tous les jours, à raison de 2 à 3 pages par jour.
Depuis quand ?
En fait, ça a commencé avec le confinement. Tout bêtement, parce que je me souviens, l'Obs m'avait demandé un journal du confinement, exercice extrêmement périlleux. Nous savons que certains s'y sont un peu cassés les dents. Moi, j'avais très peur et j'ai dit « Non, moi, je ne veux pas ». Puis, chanter qu'en plus, tout le monde était tellement avide de lire ce que chacun vivait dans son appartement à Paris, en tous les cas pour moi à Paris, donc sans horizon de nature. Et puis, en fait... Il s'est avéré que, d'ailleurs, ce journal du confinement pour l'Obs est dans Le désir d'un roman sans fin. Et il s'est avéré que c'était plus des réflexions, plus qu'un journal, en fait. Enfin, c'était aujourd'hui, quand je le relis, je me dis que c'est intéressant de se dire qu'on a eu un président qui nous a dit « nous sommes en guerre ». C'est intéressant de se dire qu'on signait des attestations pour sortir une heure. C'est intéressant de se dire qu'on voulait des masques, mais il n'y en avait pas. Qu'on jetait, moi je me souviens, je jetais les chaussures, les cartons sur le palier. Enfin, tout ça, on était quand même dans une parano hallucinante. Et en fait, dans ce journal, c'est vrai que quand mon père est mort, pendant une semaine, je n'arrivais pas du tout à écrire, puisqu'en effet, l'écriture est tellement liée au désir. Mais j'ai vite repris mon journal pour noter certaines choses, mais pas dans le but de me dire je vais écrire un récit sur la mort de mon père, mais il fallait fixer, puisque ce journal fixe tout ce qui est important dans la vie et en l'occurrence aussi dans la mienne. Donc dans Grand Seigneur, j'ai consulté à nouveau ce journal, mais pour des repères temporels. Et puis après, ça faisait pas très longtemps en fait que mon père était mort, et comme j'ai une très grande mémoire et une mémoire photographique, et puis ça a été tellement... En fait, c'est marrant, l'écriture m'a permis de sortir de l'hypnose de Jeanne Garnier. C'est-à-dire qu'à Jeanne Garnier, vous êtes sous hypnose, vous devenez addict de ce lieu, vous devenez addict de son odeur, de ses soignants, de son personnel, de son architecture, et même de ses patients que vous croisez. Et puis parfois, un jour, vous les croisez, et finalement, vous les croisez, mais ils sont entourés de... Voilà, de... Ça, je ne savais pas aussi que la police vient, en fait, quand il y a un décès qu'il faut constater. Enfin, moi, j'ai vu, comme je regardais tout, mais pas par curiosité, mais je me sentais tellement entre ces murs l'une des leurs, que voilà, j'ai vu beaucoup de morts en 11 jours. Mais je trouvais ça, en fait, cette aventure, elle m'a appris aussi à accepter la mort. Ne plus en avoir peur et à se dire qu'elle s'inscrit dans la vie et que la vie existe aussi en, non en contrefort, mais en miroir, et que les deux cohabitent, et que finalement, les morts, on peut écrire sur la mort. On peut écrire sur des soins palliatifs, on peut écrire sur quelqu'un qui est en train de mourir. Cessons de cacher nos morts, cessons de cacher la maladie, cessons de cacher la vulnérabilité, parce que je trouve... Une société qui se veut et qui se croit immortelle est une société qui ne peut pas évoluer. Moi, je sais que parfois, je peux entendre « Ah non, je ne veux pas lire ce livre ». Je dis « Mais ce n'est pas un livre funeste. C'est un livre qui est un livre d'espérance et c'est un livre lumineux. Et puis pourquoi on s'interdirait de lire la mort ?» Je comprends le chagrin, la douleur que cela peut réactiver, mais je crois que nous vivants avons le devoir de porter nos morts.
Et vous le dites aussi, et c'est ce qu'on ressent vraiment, c'est ce qui fait de Grand Seigneur une expérience aussi à lire, c'est la vie s'éprouve de façon plus intense dans ce lieu, dans cette chambre. Je vous cite « Je ressens cependant la puissance de la vie qui menaçait, en sursis, se débat, se déploie davantage qu'à l'extérieur, où les hommes, les femmes ne savent pas leur chance de courir, marcher, faire du vélo, héler un taxi, monter dans un bus, s'engouffrer dans une bouche de métro, se rendre au travail, au restaurant, rentrer chez soi. Moi non plus, je ne savais pas cette chance, qui est en fait une habitude, une mécanique. » Et il y a vraiment, effectivement, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent très fort à la lecture de ce livre et qui s'éprouve comme une expérience.
Oui, et moi, ça a été la grande expérience de ma vie. Et aussi, cela m'a remis les idées bien en place, telle une gifle. Et d'en fait, me dire, oui, moi, je suis comme tout... Ces hommes, ces femmes, et heureusement que la vie aussi est plus forte. On ne peut pas porter son fardeau, ce serait insupportable pour soi et surtout pour les autres. Ce serait impoli. Mais c'est vrai que le grand tourbillon de la vie, parfois, lorsqu'on s'en extrait et qu'on accompagne quelqu'un, tout d'un coup, fait réaliser cette chose précieuse et immense d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir ce qu'on aime autour de soi et de pouvoir toujours écrire des livres.
Donc on l'a compris, votre livre parle vraiment à la fois de l'accompagnement des derniers jours de votre père, mais aussi de votre relation, de ce qui vraiment jalonne la grande histoire de votre amour avec votre père. Et il y a en fait votre vie d'autrice, la trajectoire d'écriture, votre trajectoire d'écriture est très liée, inextricablement liée à votre relation avec votre père. Il y a une scène
très forte, qui est celle de votre première parution, de l'annonce de votre première parution. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? C'est très... votre père, le soutien indéfectible de votre père est très important
à ce
moment-là. Oui,
mais c'était franchement très beau. Et je vous dis, justement, la vie vous joue des tours et parfois de jolis tours. C'était comme un rééquilibrage des choses. En fait, moi, j'ai terminé La Voyeuse interdite. J'avais commencé à 19 ans. J'avais fait un peu de droit, après j'ai laissé tomber, j'ai fait un peu de philo à l'Institut catholique de Paris, mais mes grandes obsessions à l'époque, c'était écrire, occuper mon désir, connaître la vie, et pour moi, la vie se déroulait la nuit, dans des club de femmes où je regardais beaucoup parce que j'étais souvent la plus jeune, j'avais 18 ans et en fait est née de cette vie noctambule. Le lendemain je retrouvais mes amis étudiants et je me disais mais j'apprends tellement plus vite qu'eux en fait sur la vie, les passions, l'amour, la violence parfois aussi et la différence, parce que je me souviens moi j'ai côtoyé des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, parfois même qui avaient 85 ans, j'en avais 18 et j'étais un peu sous la protection d'Eloula Perrin qui était une grande figure de la nuit gay parisienne. Et donc, dans ce milieu-là, j'écrivais La Voyeuse interdite, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais finalement, qui avait capté quand même des enfermements, des solitudes et des violences. Et de façon parallèle, je termine ce livre en 90. Et en 90, en fait, l'Algérie sombre dans ce qu'on a nommé la décennie noire, puisque ça va durer pendant 10 ans, une guerre entre frères, sanguinaire, épouvantable, d'une cruauté absolue. Et à l'époque, en fait, mon père travaille dans les Émirats et un pays en guerre, en fait, tout d'un coup, ils ont rappelé leurs ressortissants, mon père est rentré, il a attendu qu'on le renomme ailleurs, c'était un peu compliqué, bon, il se rendait en Algérie, il a fait quelques missions, comme il disait. Et puis, en fait, il a attendu un coup de fil providentiel qui n'est jamais arrivé. Mais on a attendu tous les deux un autre appel téléphonique. C'est que quand j'ai terminé La Voyeuse interdite, nous avons, avec ma mère, c'est une histoire de famille, quand j'étais plus jeune, envoyé les enveloppes à différents éditeurs. Et en fait, mon père était avec moi quand les éditions Gallimard m'ont appelé, là, une première fois, au bout de trois jours, j'ai reçu un petit mot. Au bout d'une semaine, un premier appel, et les éditions de Gallimard ont cette chose épouvantable qui s'appelle un comité de lecture, où ils sont plusieurs à décider de votre destin. Et c'est-à-dire que c'était tout le contraire de Jean-Marc Roberts, avec qui j'ai travaillé très longtemps, ou de Véronique Cardi et Anne-Sophie Stefanini, qui sont mes nouvelles éditrices. C'est-à-dire qu'il y a un comité, ils sont plusieurs, et c'est un vote. Et donc, ça durait 3 semaines. C'est-à-dire que la personne avec qui j'étais en lien à l'époque me disait « Voilà, Nina, vous avez tant de voix, mais on vous rappelle dans une semaine, à 15h pile. » Ça durait pendant 3 semaines. Et mon père était là à chaque fois. Et on attendait. Puis mon père était assez nerveux. Soit il me disait « Il t'appelle pas, ma fille, il t'appelle pas. C'est pas bon. Genre, c'était de ma faute en plus. » Non. Et à chaque fois, l'appel, c'est bon. Alors voilà, vous avez tant de personnes, mais il y a encore une réunion. Je disais, mon cas est quand même compliqué. Et nous avons, vers la fin, eu la grande joie. Je l'ai signé mon contrat chez Gallimard. Et c'était Pascal Quignard, mon éditeur de l'époque. Et j'étais très jeune, en plus, à 23 ans, j'étais un vrai bébé. Et je me souviens, à chaque fois, je sautais dans les bras de mon père qui était sur un fauteuil. Après, il s'en est débarrassé, tant mieux. Je me souviens, un fauteuil vert sur lequel il a tant fumé. Et lui attendait son appel de son pays, mais ils l'ont un peu oublié, ils l'ont un peu abandonné. Mais l'aventure de mon premier roman a été telle, parce que ça a été un succès très rapide. Je me souviens très vite, j'étais invitée par Bernard Pivot. Comme j'avais 23 ans, je disais des trucs totalement improbables, des choses très fortes. Je parlais d'hôpital psychiatrique, je parlais de sexe géant, j'avais un truc très... J'avais peur de rien. Et Pivot était assez sidéré et je me souviens que tout d'un coup, ça a fait un petit... tout d'un coup, la rumeur a enflé. Et j'ai eu la chance d'avoir le prix du livre Inter pour un premier livre. En plus, il n'avait pas été corrigé. C'est-à-dire qu'Ignard avait dit, on le prend tel quel. Quand je le relis, parfois, j'ai une espèce de frayeur parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points d'exclamation, beaucoup d'adverbes. Mais tant mieux, c'est la tendresse d'un premier livre. Je l'avais commencé à 19 ans. J'étais vraiment très, très jeune. Et qui a ouvert la porte après... jusqu'au 20e livre, là, voilà, qui a ouvert le chemin. Et c'est vrai que mon père m'a accompagnée, et lui, c'était aussi... Et je me dis, c'est bizarre, parce que, voilà, ces livres-là qui... Alors, ces textes-là, il les aura lus dans Le désir d'un roman sans fin. Mais Grand Seigneur, qui lui est dédié, il ne le lira pas. Mais mon père avait aussi cette manie de faire les librairies de son quartier ou les grandes enseignes. Et il reconstruisait les piles de mes livres. C'est que si j'étais pas, si j'étais mal placée, ou donc il refaisait. Mais le problème, c'est que je ressemble beaucoup à mon père. Et enfin, et donc je me dis, il est sur les caméras de surveillance, cet homme avec ses yeux, son nez, c'est tellement moi en homme qu'on était, je pense, un peu grillé, un peu grillé.
On va faire passer doucement le micro, mais j'ai une petite dernière question. Bon, déjà, effectivement, cette scène est vraiment très belle. J'aurais eu énormément de questions sur toute la trajectoire de votre écriture qui a suivi, mais je trouve que cette scène cristallise beaucoup de choses de votre rapport à l'écriture et à votre père. Vous dites, en parlant de ces coups de fil que vous attendiez tous les vendredis, « Dès que je raccrochais, je sautais à son cou. Nous avions gagné. Je dis « nous » parce que je voulais sauver mon père de son chagrin et je le sauverai. »
Oui, parce que je suis persuadée que les maladies font leur lit dans les très grandes déceptions. Et mon père était déçu, il était triste, il était mélancolique. Mais comme à Jeanne Garnier, il a fait preuve d'un courage et d'une dignité hallucinante parce qu'il ne nous en a jamais parlé. Après, il s'est consacré à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils. Il a eu la chance aussi d'être arrière-grand-père. Mais de cela, alors il en parlait parfois quand on faisait un peu la fête, qu'il y avait un peu de champagne, un peu de vin, il racontait ce qu'il avait fait, mais avec beaucoup aussi d'énigmes, hein, et de « je peux pas tout dire, j'ai beaucoup joué ». Mais c'était bien parce qu'il a construit sa légende. Légende que je n'ai pas dévoilée, hein, finalement, dans Grand Seigneur, pas tant que ça. Mais oui, je crois qu'il a eu... Voilà, il a eu ses secrets, lui aussi. Mais ses secrets, parfois... voilà, je pense que ça a été très difficile pour lui. C'est un homme qui aimait beaucoup son pays, qui l'a beaucoup servi, avec beaucoup de courage, de force. Il a beaucoup travaillé. Et parfois, on aime un pays comme on aime une femme.
Et une éthique aussi qui en fait, l'a aussi mis de côté à certains moments.
Oui, je pense que ce n'était pas un joueur, ce n'était pas un politicien, c'était quelqu'un d'extrêmement honnête. Parfois, voilà, tant mieux d'ailleurs, et de loyal. Mais parfois, la loyauté a aussi un prix.
Une toute dernière question avant d'entendre le public. Vous portez son nom, donc Bouraoui, qui veut dire conteur. Vous l'avez appris, vous l'écrivez dans le livre assez tardivement, et vous lui promettez à la fin du livre d'honorer son nom, de continuer à écrire. Simplement, est-ce que aujourd'hui, qu'il n'est plus là, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre écriture ?
Je ne crois pas. Dans Grand Seigneur, tout ce qui est écrit est vrai, et c'est vrai que un jour, je me suis mis à ses côtés. Et je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. Je savais qu'il m'entendait, parce que je crois qu'on entend quand même, même si on n'arrive plus à parler. Et c'était important pour moi déjà de lui accorder mon pardon. C'était important pour moi de lui dire merci, même si son éducation parfois était un peu sévère. Mais c'est vrai qu'elle m'a ouvert aussi beaucoup de chemin et m'a permis... de tenter de bien me tenir en société. Et je lui ai promis aussi, oui, de continuer à honorer son nom en écrivant toujours et encore plus. Alors peut-être, oui, ça a changé peut-être dans le sens où j'ai... moi, c'est très bizarre. Je crois que Marguerite Duras le dit très bien dans un livre qui s'appelle « Écrire ». C'est-à-dire que quand on écrit un livre, quand on l'a terminé, quand il publie, c'est vrai qu'il ne vous appartient plus parce qu'on ne se souvient plus du tout dans quel désarroi on a pu l'écrire ou dans quel bonheur ou dans quelle folie. Il y a quelque chose comme ça qui s'efface, qui s'arrache à vous, qui fait que la vie d'un écrivain, parfois, elle est... moi, parfois, je me dis « j'ai rien écrit ». Et c'est vrai qu'aussi, j'ai voulu rassembler tous ces textes, même pour moi, pour me prouver que j'avais quand même pas mal écrit, que non, c'est pas vrai, que j'avais pas rien fait. Avec la mort de mon père, j'ai la conscience de l'urgence des textes, de l'urgence d'écrire encore plus. Non pas, je suis ni mégalo, ni égocentrique, ni quoi que ce soit, pour laisser quelque chose, pas du tout, mais en tous les cas, pour... restituer une part du monde à un instant T et partager peut-être, sans le savoir, une heure ou deux avec un lecteur qui aura soudain peut-être une petite veilleuse ou une petite lanterne Bouraoui, tel Aladdin.
Merci Nina Bouraoui. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce que le micro commence déjà à tourner? On est un peu dans le noir, alors je ne vois pas bien. Ah voilà, il y a une main qui se lève.
Bonjour. Nina, dans votre livre, vous parlez de Georges, que vous voyez aux soins, et vous vous reconnaissez dans une douleur. Est-ce que c'est quelque chose maintenant dans la vie que vous reconnaissez? Est-ce que, par exemple, vous reconnaissez quelqu'un, sans se parler, qui traverse une même douleur que vous, la perte d'un père?
Ah, c'est Alors, sans se parler, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand je suis dans la ville, parce que je marche beaucoup, j'adore marcher, aujourd'hui, c'était bizarre parce que quand je sortais de Jeanne Garnier, j'avais une impudeur, c'est que je pleurais dans la rue. Je me disais, mais t'es nulle, tes larmes, t'as pas le droit de les partager. Et en fait, je me disais, j'ai envie de les montrer, j'ai envie de les exposer, j'ai envie que tout le monde sache que, pas que je souffre, mais que mon père est en train de mourir. Et souvent, aujourd'hui, je me dis, dans la foule, je me dis, mais certainement, là, à côté de moi, cet homme, cette femme, peut-être cet enfant, est traversé par ça. Je ne sais pas si je les reconnais, mais en tous les cas, j'entends leurs mots quand les endeuillés, les inconsolables, comme je les nomme, viennent me voir, comme dans des festivals, dans des rencontres, dans des signatures. Et je trouve que nous avons... Nous portons un drapeau commun. Alors, je ne dis pas que c'est le drapeau du deuil et de la force noire et funeste. Et non, je trouve que nous sommes changés, nous sommes augmentés peut-être d'une sensibilité ou d'une intelligence ou d'une maturité. Mais il y a un supplément de douceur, je trouve. Enfin, moi, je trouve que je n'étais pas en colère, je n'avais plus de colère. Mais j'ai augmenté en douceur.
C'est comme une sorte de communauté que vous créez, en fait, avec ce livre pour les personnes qui ont perdu un père ou une personne proche. Mais comme je le disais, je trouve que ça permet aussi de s'y préparer, vraiment, quand on ne l'a pas encore vécu. Et c'est très important de s'y préparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main si vous avez d'autres questions. On peut encore prendre une question ou deux. N'hésitez pas. Non ? Il y a une timidité.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Je vais te poser des questions.
Merci Nina Bouraoui, Grand Seigneur et le désir d'un roman sans fin. Vraiment, ces deux livres, je conseille de les lire. Alors moi, j'ai d'abord commencé par Grand Seigneur et j'ai lu le désir d'un roman sans fin ensuite. Et je trouve qu'ils s'apportent beaucoup et on vous lit mieux ensuite, on vous comprend mieux ensuite. Je sais pas si justement on a peut-être... le temps de je voulais vous demander si vous aviez senti en lisant Le désir d'un roman sans fin comme des clés pour vous-même mieux comprendre votre œuvre et notamment
oui, il est drôle parce qu'il répond parfois à certaines énigmes, mais surtout je vois l'évolution des années 90 à aujourd'hui. Je vois qu'au début je m'assume pas du tout, qu'il y a parfois des personnages féminins qui sont transformés en hommes. Je vois parfois des choses un peu de brouillard. Je vois une écriture parfois très très saccadée. Je parlais de la colère et je vois un apaisement. Donc en tant qu'archive c'est bien. Et puis aussi, en tant que répertoire des obsessions, je vois que je suis quelqu'un d'hyper obsessionnel et que les obsessions sont toujours les mêmes et les pays sont toujours les mêmes. Mais après, on voit que j'ai aussi vieilli, tant mieux, une forme de maturité où tout d'un coup, les idées sont plus claires aussi.
Le rapport au lieu, il y a vraiment effectivement des choses très fortes qui traversent en fait le rapport au lieu, au désir, à l'amour, à la vie. Vraiment, c'est extrêmement, enfin, on le ressent de façon très intense en lisant ce livre-là. Et puis vos doutes d'écrivaine aussi qui sont très intéressants.
Oui, rongés par le doute toujours, mais qui, si l'on ne doute pas, on n'avance pas. Enfin, moi je... Puis plus que du doute aussi, il y a du doute et puis aussi de la peur de ne plus rien avoir à dire et puis la peur de ne plus savoir écrire. Mais il arrive un temps à chaque fois, je pense pour chaque écrivain, en tous les cas pour moi, un laps de temps assez court où je ne sais plus écrire. Peut-être aussi, vous savez, parfois on plonge dans une piscine et étourdi, on ne sait plus nager. Ça, je l'expérimente. Et puis après,
vous l'annoncez, vous le dites à votre éditeur. Il y a une lettre où vous écrivez à votre éditeur, je ne veux plus écrire, je veux être libre.
Oui, c'est vrai, il y a toujours cette tentation. Mais en fait, l'écriture est tellement la vie. Renoncer à écrire, ce serait renoncer à vivre.
On va terminer par cette phrase. Merci Nina Bouraoui.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre. Merci Nina Bouraoui.
Merci.
La suite du programme, c'est une dédicace avec Nina Bouraoui à l'espace librairie. Et dans quelques minutes, enfin même maintenant, vous pouvez retrouver la prochaine rencontre entre Fanny Chiarello, poétesse et romancière, et Pierre Rigaud, expert du monde animal. C'est une rencontre intitulée « Récits sensiblement antispécistes ». Merci beaucoup.